Good Morning Market, le club de la bourse.
8h43 sur BFM Business et sur AMC Life. Le club de la bourse ce matin, c'est avec Thibaut Prébet. Bonjour, économiste indépendant. À côté de vous, Benoît Béjoc. Bonjour, vous êtes stratégiste quantitatif chez ABN AMRO Investment Solutions. On a deux gros sujets, Étienne, quand même, aujourd'hui. La BCE, oui. Parce que c'est jour J, et SpaceX. La BCE s'est actée. La hausse des taux, on y arrive.
Oui, le marché anticipait 2 à 3 hausses de taux sur l'ensemble de l'année. 70 points de base, c'est un peu l'ordre d'idée sur l'ensemble de l'exercice. Et du côté de SpaceX, on a de plus en plus d'informations qui montrent que ça va vraiment être l'introduction de tous les records, avec notamment hier soir Reuters qui évoquait 250 milliards de demandes, sachant que pour rappel, cette introduction en bourse n'est pas totalement terminée. Bon nombre de plateformes permettent encore de participer jusqu'à ce midi, donc on sera bien au-delà. Pour rappel, vous avez un groupe qui souhaite lever 75 milliards de dollars. Donc, c'est une opération qui sera très largement sursouscrite avec une capitalisation qui devrait frôler demain les 2000 milliards de capitalisation boursière. C'est juste gigantesque. Dès les premières secondes, vous avez un groupe qui va se retrouver dans le top 10 des capitalisations boursières aux États-Unis.
Alors, vous avez commencé par SpaceX. Alors, je prends le sujet demain avant le sujet de cet après-midi. Bon. On commence avec SpaceX. Bon, on en a vu partout. On peut encore en acheter jusqu'à ce midi.
Oui.
Avec une sursouscription qui va être dingue. Vous regardez comment, Benoît Béjoc.
L'engouement est très fort, forcément, parce que le business model est en fait à la croisée de plusieurs thématiques qui sont actuellement très stratégiques, dans lesquelles on voit une tendance, un momentum, l'espace, l'IA et la connectivité via Starlink. Donc on peut comprendre un engouement, il y a peut-être aussi une sorte de fear of missing out autour de SpaceX.
Oui, il faut en avoir quoi.
Exactement, pour en avoir. Et in fine, qu'est-ce qu'on remarque ? C'est sursouscrit. Une fois qu'on a dit ça, miser sur SpaceX, c'est miser en fait sur un titre d'hypercroissance. Concrètement, c'est miser sur le fait qu'Elon Musk a raison sur ses trois paris, c'est-à-dire qu'il va réduire le coût de mise en orbite, qu'il va continuer la croissance de Starlink et qu'il va réussir à mettre des data centers dans l'espace. C'est vraiment de l'hypercroissance parce qu'on ne peut pas se baser sur des fondamentaux étant donné que les valorisations sont absolument délirantes. Il faut croire et il faut croire dans l'idée que ça va marcher. Après, en termes de réaction de marché, ce à quoi on peut s'attendre une fois l'IPO lancé, on sait qu'il y a une part assez importante de retail, qui est destinée au retail, donc potentiellement une volatilité assez importante après l'IPO, selon les clauses aussi de détention minimum. Donc ça, c'est ce à quoi on peut s'attendre, 30% destiné au retail contre 5 à 10% d'habitude.
Thibaut Prébet, est-ce que c'est une arnaque pour particulier SpaceX ?
Non, c'est pas vraiment une arnaque parce que les particuliers, ils ont envie, c'est une religion.
Ah Musk. Non, mais ils sont d'accord, mais.
C'est une religion, Musk. Il raconte n'importe quoi tout le temps, tout le monde achète. Je rappelle qu'en 2021, il disait qu'en 2030, Tesla vendrait 20 millions de bagnoles par an. On n'est même pas au 12e et c'est en décroissance. Et il nous refait un pari qui est tout aussi délirant et tout le monde y va. Moi, je trouve ça fascinant, c'est une religion. Je sais que quand on dit ça sur les plateaux, tout le monde vous insulte, alors que je vous assure que si je dis que la BCE fait n'importe quoi, ça va déranger personne. Tout le monde va très bien dormir. 2.1, quand on est habitué des marchés obligataires, on sait qu'il y a des notions d'indices. Il y a des gens qui doivent en avoir. 8 fois sursouscrit sur l'obligataire, c'est ultra classique. Donc quand on a des grosses introductions, des vrais sujets d'indices, c'est pas un facteur incroyable. Et ça peut très bien très vite monter au début parce qu'il y a des gens qui doivent en avoir et se casser la gueule ensuite, ce qui est généralement ce qui se passe sur les introductions en bourse. Maintenant, voilà, il y a des gens qui veulent en avoir, c'est sympathique, il y a un côté très intellectuel, élitiste, on se projette. La réalité, c'est qu'il y a des boîtes qui ont beaucoup plus de croissance, comme Nvidia, qui sont infiniment moins chères tout en étant beaucoup moins risquées. Donc on n'est pas dans un truc rationnel. Encore une fois, c'est de la religion. Si on était critique, on dirait de la secte. C'est comme ça.
Mais
pourquoi pas ?
Qu'est-ce qui fait que vous en avez pas ? Parce qu'on voit les promos partout, enfin même les banques vous proposent d'en acheter. Qu'est-ce qui fait que vous en aurez ou vous en aurez pas ? Étienne, vous avez la réponse à ça ou pas ?
Il y a une hype, c'est vrai que tout le monde a envie de participer à cette aventure, un petit peu à un effet FOMO. Moi, ça me fait un petit peu penser aux différents épisodes qu'on a pu avoir ces derniers temps, notamment sur les cryptos, où au final, il y a un tel engouement que vous dites, il faut y aller. De toute façon, là, l'opération sera tellement sursouscrite que ça va forcément exploser à la hausse demain. Il y a de fortes chances, forcément.
Mais tout le monde n'en aura pas.
Donc forcément, du coup, il faudra en acheter sur le marché secondaire demain pendant la séance. Et donc, il y aura forcément un effet boule de neige à court terme, parce qu'il faut pas oublier que pour l'instant, c'est 5% du capital de la société qui est mis en bourse. D'ici quelques mois, il y aura à nouveau des émissions d'actions.
Du coup, vous mieux attendre le marché secondaire,
non ? Non, ça peut monter très vite. Justement, qu'au début, quand les gens qui devaient en avoir pour les indices, les ETF vont en acheter, et puis après, ça peut plutôt se péter la gueule. Mais il faut rappeler qu'en fait, c'est un peu la gueule du client. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a une allocation comme ça, les banques ont la main, font ce qu'elles veulent, c'est pareil sur l'obligataire. Que deux, elles jugent la crédibilité. C'est-à-dire quelqu'un qui en demande 10 fois plus que la taille de son fonds pour en avoir beaucoup, les gens vont considérer que la demande réelle n'est pas celle-là. Donc il y a tout un boulot de retravail des books. Et puis après, il y a des allocations par poche. Il y a des gens qui ont été là dès le début, qui ont permis d'assurer l'introduction en disant « moi j'en prends beaucoup », qui seront mieux valorisés que ceux qui arrivent à la fin. Donc c'est un mécanisme assez complexe, l'allocation par rapport aux demandes. Il y a une partie gueule du client et une partie assez rationnelle.
Benoît ?
Sachant que, quand même, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'il y a les actionnaires de longue date, c'est-à-dire que les fonds de venture capital, les salariés de SpaceX, ouais. qui, là, vont avoir un créneau de liquidité. Alors, pas tout de suite, parce qu'il y a souvent des options de lock-up, donc ils doivent les détenir les actions un minimum de temps, mais on peut s'attendre à dans un an ou deux ans.
Parce qu'ils vendent.
Et qu'ils vendent, en fait, tout simplement. Et pas parce qu'ils croient pas nécessairement dans le business model, ça regarde chacun. Néanmoins, ils peuvent vouloir par là une idée un petit peu de liquidité et une prise de bénéfice, parce que la valorisation a nettement augmenté.
Et comment vous analysez là la baisse sur le Nasdaq des derniers jours ou du Bitcoin? C'est des gens qui cherchent du cash pour réinvestir dans SpaceX? C'est quoi?
Ça peut être potentiellement ça. Alors, pas que ça, je pense. Il y a cet effet-là, parce que forcément SpaceX vient sur des thématiques très importantes sur lesquelles, jusqu'à présent dans le marché, on avait une sorte de prime de rareté. C'est-à-dire notamment sur l'intelligence artificielle, quand on voulait jouer les gagnants de l'intelligence artificielle, on allait vers les titres que l'on connaît, les acteurs qui sont déjà présents. Là, forcément, de nouveaux acteurs arrivent, je parle de SpaceX, mais avec les nouvelles IPO, donc il faut dégager du cash pour ensuite investir sur ces acteurs-là. Mais il y a aussi tout de même un effet qui est assez important dans ce dégagement de flux vers SpaceX et le fait que les marchés baissent, c'est les derniers résultats des grosses boîtes d'intelligence artificielle.
On a vu Oracle
Exactement.
Nuit.
Et en fait, Broadcom et Oracle, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est des très bons résultats, des earnings per share qui surprennent à la hausse, un chiffre d'affaires qui surprend à la hausse. Par contre, les investisseurs voient toujours plus de dépenses et toujours pas de monétisation à long terme. En 2027, c'est ça qui pénalise Oracle. Ils n'ont pas revu à la hausse leurs revenus liés à l'intelligence artificielle. Et ça peut expliquer aussi cette petite volatilité sur le Nasdaq et la baisse des cours récente.
Il nous reste 4 minutes pour dire du mal de la BCE, comme vous dites. Thibault Prébet, avec cette hausse de taux qui est prévue, intégrée dans les cours cet après-midi, est-ce que c'est une erreur?
Oui, c'est une erreur. C'est pas une erreur très très grave, parce qu'on n'est pas à des niveaux énormes et qu'on parle de 0,25, mais vous aurez du mal à trouver un économiste qui pense que
là. On a trouvé.
Bravo. Alors, mais je suis très forte, Laure. Oui. Depuis longtemps, je suis impressionné.
Mais on a cherché volontairement.
Voilà. Mais c'est vrai que si vous voulez considérer qu'une banque centrale peut rouvrir le détroit d'Ormuz, ça n'a aucun sens. Donc, ça veut dire qu'elle ne peut rien faire contre l'inflation. Et si elle peut rien faire contre l'inflation, son seul autre boulot éventuel, c'est de casser une boucle, prix-salaire qui n'existe pas. Donc, aujourd'hui, ça n'a aucun sens. On va se refaire une connerie comme en 2008 et en 2011. On a survécu, c'est pas très grave, mais il n'y a pas de narratif pour justifier ça. Ça n'a aucun sens. Et c'est encore comprendre que c'est un sujet d'État que les banques centrales devraient mieux financer. C'est pas un sujet de banque centrale que de gérer un choc géopolitique. Peut-être qu'un jour elles vont le comprendre. On n'y est pas encore.
Bon, mais Jacques.
Je rejoins totalement ce qui vient d'être dit. On considère aussi que c'est une erreur potentiellement de politique monétaire. Alors 25 bips à court terme, ça change pas grand chose effectivement. Le gros risque viendrait plutôt si la BCE venait à s'engager dans un cycle de resserrement monétaire assez important. C'est-à-dire que là, les marchés anticipent que 2 à 3 baisses, avec des pauses entre... À 3 hausses, pardon, merci Jeanne. 2 à 3 hausses, ouais.
C'est un souhait, ça.
Ouais, on aimerait tellement que du coup, voilà. Mais pour le moment, pas un cycle agressif. Mais effectivement, quand on regarde les métriques factuellement, il y a un petit peu de montée d'inflation corps et des services, mais c'est des liens indirects à l'énergie sur lesquels on sait que la BCE n'a pas de pouvoir. Et elle peut éventuellement se baser sur les anticipations d'inflation à long terme, mais on sait quand même que cette mesure est peu fiable. Elle est très corrélée aux mesures d'inflation aujourd'hui, ce qui n'a peu de sens pour les mesures d'anticipation d'inflation à long terme. Donc à ce stade, peu de raisons pour la BCE de monter les taux, effectivement.
Etienne, on écoutera dans le détail du coup le discours de Christine Lagarde. Est-ce que les mots vont être importants?
Et d'éventuels indices sur les futures hausses de taux qui sont anticipées par le marché, notamment en septembre. Le marché pense qu'il y aura à nouveau une hausse de taux de 25 points de base en septembre. Et puis également peut-être des commentaires sur le bilan de la BCE, parce qu'on parle beaucoup des taux, mais il n'y a pas que les taux. Il y a tout un tas d'outils qui permet d'agir sur la politique monétaire.
Il nous reste une grosse minute pour parler du corps avec ce rapport cette semaine publié sur des nouveaux indicateurs de l'INSEE. Thibault Prébet, c'est votre cam maintenant, la démographie.
Ça a toujours été, faites pas semblant.
Non, non, mais parce que c'est la matière mère, la démographie. De l'économie. Là, on voit clairement que le débat sur le fait de travailler plus va revenir. On remet les 67 ans sur la table. Vous dites qu'il était temps, c'est la seule manière d'avancer?
Oui, en fait, il y a deux éléphants dans la pièce qu'on n'évoque pas. Le premier, c'est qu'effectivement, on avait historiquement une retraite qui était placée à l'espérance de vie. Donc quand il y a 20 ans d'écart maintenant, il faut travailler plus longtemps, il n'y a pas le choix. Mais on a deux éléphants dans la pièce qui sont complètement absents du débat.
En une minute.
En 30 secondes. Le premier, c'est qu'on va prendre 2 points dans les dents de déficit d'ici 2070. Mais si on n'était pas à 6, ce serait pas très grave. Le premier problème, c'est qu'on a déjà trop de déficit. Donc de toute façon, comme il faut aussi réduire le déficit, faudra tous les leviers. Baisser les pensions, augmenter les cotisations, etc. Deuxième point, le plus pénible quand vous allez à l'étranger, c'est que la partie santé est beaucoup plus dure. On a les mêmes problèmes de pas assez de cotisants, de trop de gens. La technologie n'aide pas parce que quand vous soignez les malades, ils peuvent avoir de nouveaux traitements coûteux. Donc en fait, l'équation qu'on a, c'est la mise en bouche, c'est le plus facile, on n'y arrive pas. Alors que le truc le plus dur arrive derrière. Et donc tout ça me rend inquiet. En une minute.
Donc vous dites 67 ans, plus baisse des pensions, plus hausse des cotisations.
Bien sûr.
Ça va faire beaucoup.
Oui, mais c'est sur une durée longue quand même. Mais il faut prévoir.
Oui. Oui, bah, ça, politiquement, ça s'appelle du sang et des larmes. Ça,
c'est moche, hein.
C'est difficile à vendre.
Et vous comprenez pourquoi personne ne le propose.
Oui, c'est ça. On préfère avoir un autre discours.
Bah, je ne serais pas candidat à la présidentielle.
Vous ne serez pas élu. Merci beaucoup, Thibaut Prévet, Benoît Béjoc, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.